Onde durable.
Terrain commun, récit d'écologie populaire.
À la rencontre de celles et ceux qui font vivre une écologie populaire au quotidien.
Ancrée dans les territoires, les pratiques et les récits.
Bonjour à toutes et à tous. Peut-on être heureux en étant sobre ? La sobriété heureuse, c'est une action innovante menée par plusieurs associations du pays de Lorient pour impliquer des citoyennes et des citoyens dans une consommation plus responsable et plus durable. Nous en parlerons dans quelques minutes avec Julien Pondaven, directeur du réseau Cohérence, l'une des associations engagées dans ce programme de sobriété heureuse intitulé « En toute simplicité ». Mais avant, partons à la rencontre de deux femmes à Guidel dans le Morbihan qui, suite à ce programme, ont considérablement changé leurs habitudes. C'est un reportage signé Radio Boa, votre radio associative régionale trilingue en Bretagne.
Coucou Adeline.
Bonjour,
comment vas-tu?
Ça va bien et toi?
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Ah bah oui, un an du coup, bientôt.
Bah oui, absolument, je referme parce qu'il ne fait pas très chaud.
Voilà. Merci de nous accueillir.
Avec plaisir.
Et du coup, un an après, est-ce que... t'en es où? Est-ce qu'il y a des... Enfin, tu vois des restes déjà du...
Ah bah, de toute façon, enfin, comme je te l'avais dit, en intégrant ce collectif, en fait, j'avais déjà mis pas mal de choses en place, mais naturellement. Après, ça n'a fait que accentuer aussi le sujet.
Moi, je suis Adeline Pédron et je suis chargée de mission à ALOEN, l'Agence locale de l'énergie et du climat de Bretagne Sud. On a formé deux groupes d'habitants. Donc un à Quévin, un à Guidel. On a proposé 6 ateliers, qui étaient à chaque fois des ateliers thématiques. Donc le premier, c'était un atelier pour faire connaissance et qui était assez général. Et ensuite, chaque atelier avait un thème principal. Donc on a travaillé sur l'alimentation et puis le fait de cuisiner ensemble, les déplacements, le désencombrement, son rapport aux objets, l'habitat, et les low-tech. Donc on a été visiter un écolieu à Inguignel, le Quilombo, où les personnes habitent en yourte, et donc c'est un lieu collectif, donc voilà, elles ont poussé assez loin la démarche vraiment de l'habitat, en allant vers l'habitat léger et du désencombrement. Enfin du coup c'est une visite assez intéressante.
Florence Lenoir, je suis déléguée médico-technique pour un prestataire de santé à domicile. J'ai 58 ans, je suis divorcée et j'ai un grand garçon de 30 ans.
Cette démarche, qu'est-ce que vous en attendiez au départ?
Que ça m'apporte encore plus d'idées sur certains sujets. J'étais curieuse de voir ce qu'on allait me proposer pour peut-être aussi me faire évoluer.
Alors justement, quelles sont un peu peut-être les premières choses que vous avez mis en place qui n'étaient pas en place avant?
Moi, je me déplace beaucoup pour mon métier. Je fais à peu près 50 000 km à l'année. Donc, c'était déjà voir si dans mon entreprise, je pouvais avoir un véhicule électrique ou hybride, parce que j'ai un véhicule de fonction. Donc, ça s'est bien trouvé, puisqu'en fait, dans l'année, j'ai pu bénéficier de ce véhicule-là.
Donc, première chose, le véhicule d'entreprise, le véhicule de fonction. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui vous ont permis de faire évoluer aussi certaines de vos pratiques?
Par exemple, avant, je ne gardais jamais les fans de radis. Aujourd'hui, je les garde, je les congèle. Et si j'ai besoin de faire une purée ou bien un potage, j'intègre ces fans de radis dans mon plat. Donc, pas de perte. Grâce à tous ces échanges que j'ai pu avoir aussi avec le groupe, je n'achète plus du tout de pâte à tarte. Je les fais moi-même et ça prend pas plus de 5 minutes. Donc ça, c'est des petites choses qu'on peut s'approprier tous.
Qu'est-ce que ça a apporté, cette dynamique de groupe finalement entre vous? Est-ce que ça vous a permis aussi d'échanger des points de vue, de vous faire évoluer aussi sur la façon de faire les choses?
Oui, parce que certaines personnes qui ont d'ailleurs intégré le groupe n'étaient pas du tout dans cette optique peut-être d'évolution. Et je pense à une personne en particulier, on prend sa maison aujourd'hui et on prend sa maison il y a un an et demi. C'est plus du tout le même lieu. La façon de cuisiner, pareil. Donc, c'est des petites victoires. Et la sobriété heureuse, c'est ça. C'est de se dire comment je peux être finalement épanoui, heureux en faisant certaines choses. Après, c'est pas donné à tout le monde, je pense. Il y en a qui mettront plus de temps ou qui ne feront pas du tout ce changement-là. C'est une démarche très, très personnelle. Mais on peut en parler autour de soi. Ça ne nuit pas.
Bonjour.
Bonjour Marcella, Julien de l'association Cohérence.
Enchanté, bienvenue.
Merci, je viens pour faire le bilan du programme en toute simplicité.
Très bien, je vous en prie. Donc, je vais vous montrer mon vélo. En fait, à chaque fois que je me rends à mon club photo, je vais uniquement en vélo, même s'il pleut.
Ah, mais c'est super.
Oui, j'étais super fière de cet achat parce que c'était un petit magasin à Lorient Centre et je suis venue en vélo depuis Lorient pour l'amener. Mais j'avoue que je l'utilise uniquement ici à Guidel.
Et l'important, c'est de remplacer la voiture sur tous les petits trajets avec, avec un vélo. Hein. C'est ça la logique. Hein. On n'est pas dans tout ou rien. On est dans une alternative à la voiture en essayant d'utiliser le maximum le vélo et puis vous démontrer que c'est possible et que c'est à la portée de tout le monde.
Je m'appelle Marcella Garcia. Je travaille actuellement comme chargée de communication et de développement dans une agence d'architecture à Lorient. Et je suis d'origine hondurienne et j'habite à Guidel depuis 2023.
Alors, le programme s'appelle la sobriété heureuse. Ça veut dire quoi pour vous, sobriété heureuse ?
Pour moi, ça veut dire essayer de faire un maximum d'attention aux répercussions de nos actions, de nos achats, de ce qu'on mange, de la manière dont on se déplace. Oui, essayer d'être le plus écologique ou en accord avec une transition écologique possible.
Mais en quoi ça peut rendre heureux ? Parce que la sobriété, généralement, on se dit on est sobre, on consomme pas trop, peut-être qu'on va pas être heureux. Enfin, comment vous voyez les choses par rapport à ça ?
Oui, c'est vraiment compliqué, surtout parce qu'on est bombardé tous les jours par des messages qui nous incitent à avoir plus, à faire plus, à consommer plus. Et je peux comprendre qu'on l'associe à une certaine notion de sacrifice, mais en même temps, non, parce que ça peut être heureux dans le sens qu'on sait maintenant ce qui peut se passer ou ce qui risque de se passer si on ne change pas nos comportements. On ne peut pas être heureux en se dire qu'on est en train d'utiliser les ressources qui nous appartiennent plus, qui appartiennent aux futures générations. C'est une question de savoir qui on est, ce qu'on défend et de vivre aligné avec ça.
Vous vous posiez autant de questions avant ce programme, ou est-ce que c'est venu consolider ?
Je me posais beaucoup de questions, mais c'est vrai que le programme on a fait réfléchir beaucoup plus à ça.
Par exemple, alors vous parliez d'achat, mais est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels vous réfléchissez beaucoup plus ?
Oui, l'alimentation. Je sais qu'on a essayé d'acheter bio déjà avant, mais le fait de s'installer en Bretagne, les choix professionnels, le changement aussi de revenus, ça implique aussi... Ça entraîne de ne pas pouvoir faire les choix qu'on veut. Certains choix qui sont plus durables ou plus écologiques ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Et j'en étais consciente bien avant, mais le programme a aussi éclairé ça d'une manière plus flagrante.
Qu'est-ce que vous retirez finalement de ce programme ?
Pour moi, c'était un succès total. Dans le sens qu'en venant d'arriver en Bretagne, il m'a permis de découvrir les structures, les acteurs qui œuvrent en faveur de la transition écologique. J'ai rencontré des gens formidables et ça m'a encouragé, ça m'a confirmé que définitivement j'avais besoin d'un changement de vie au niveau professionnel et de m'engager davantage.
C'est ce qui s'est passé ?
Oui, le fait que maintenant je me suis inscrite dans un master en écologie industrielle et territoriale et que je cherche une alternance parce que c'est un master en alternance et comme ça je vais acquérir et les connaissances, les compétences et aussi l'expérience professionnelle qui vont légitimer mon engagement pour éventuellement pouvoir travailler dans ce domaine.
On a compris, vous étiez déjà engagé, le programme vous a encore plus engagé, et maintenant vous vous engagez encore plus. Mais qu'en est-il des gens qui sont finalement un peu loin de ces thématiques-là? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi s'adresser à eux?
Oui, effectivement, et c'est compliqué parce que même les gens qui pensent, qui sont d'accord avec nous, ne vont pas forcément s'engager autant que nous. Je crois qu'il faut continuer à faire les choses que font ces structures qui ont participé au programme. Donc faire beaucoup de vulgarisation, beaucoup d'ateliers, de formations. Parce que, en fait, c'est en venant dans ces formations, ces ateliers, ces activités, même si on a juste un peu curieux, on se pose des questions, on est toujours bienvenu, on apprend et ça nous oriente un petit peu plus vers où aller, comment faire, sans culpabiliser, vraiment chacun à son rythme. Donc il faut continuer à faire de l'éducation populaire, absolument.
Voilà, à l'instant, ce reportage sur un premier bilan, un an plus tard, de ce programme autour de la sobriété heureuse, déployé sur les communes de Guidel et de Quévin dans le Morbihan. Pour aller plus loin sur cette action et plus généralement comprendre les ressorts de l'implication citoyenne pour l'environnement, eh bien nous recevons en studio Julian Pondaven, que vous avez pu entendre brièvement dans la partie reportage avec la deuxième participante. Julian Pondaven est le coordinateur du réseau Cohérence, un réseau breton d'associations et de citoyens qui défendent l'environnement, la santé et le monde paysan. Bonjour Julian.
Démet, bonjour.
Alors, naturellement, Julian, ma première question porte sur le reportage que l'on vient d'entendre. Que retenez-vous de ce retour avec ces deux participantes que nous avons pu interviewer avec vous?
Eh bien, on ressent en écoutant Florence et Marcella, avant tout, la joie de changer, c'est vraiment flagrant. Elles démontrent, elles expliquent ce qu'elles ont pu changer, là où elles ont atteint des limites pour le moment. Mais ce que je retiens, c'est qu'on peut changer à son rythme, bien sûr, et puis que ça crée de la joie et un vrai plaisir.
Oui, parce que si on revient un peu sur l'intitulé de cette opération que le réseau Cohérence a mis en place avec trois autres partenaires qui sont Aloen, Optimisme et également C2Sol, ce sont des associations toutes lorientaises comme vous. Comment vous est venue l'idée de ce programme, donc qui est intitulé au départ Sobriété heureuse et puis qui a évolué après sous un autre nom? Vous allez peut-être nous expliquer tout ça, Julien.
Au démarrage, on était plutôt parti sur une convention citoyenne à l'échelle de Lorient Agglomération. Et puis finalement, les conditions politiques n'étaient pas réunies. Donc, on a refait une proposition autour de la notion de sobriété heureuse. Un sujet innovant qui n'a pas encore été exploré. Et donc, à quatre, on est parti voir Lorient Agglomération, les communes de Quévin et Guidel, pour leur dire « chiche, on lance un défi famille sur cette thématique ».
Et ça vient d'où, cette histoire de sobriété heureuse? Est-ce que c'est déjà un concept qui existait auparavant ou vous l'avez complètement inventé, vous, avec vos partenaires?
Alors, le père, on va dire, de la sobriété heureuse, c'est Pierre Rabhi, c'est un paysan philosophe du sud de la France qui a inspiré beaucoup de mouvements, d'associations et qui a fait connaître cette notion-là. Et donc, nous, c'était une notion vraiment intéressante à creuser parce qu'on a déjà, par le passé, et on n'est pas les seuls à avoir lancé des défis sur des familles à énergie positive, alimentation. Les fameux défis famille. Hein, et à chaque fois, on constate que ça marche. Quand on est dans des dynamiques collectives, les gens s'engagent, évoluent, prennent plaisir. Mais on n'avait pas encore exploré cette question de la sobriété, c'est-à-dire le questionnement permanent de nos envies et pour pouvoir faire la part des choses entre nos besoins quotidiens, les besoins vitaux d'une alimentation de qualité, d'une éducation, d'un épanouissement, et puis les envies qu'on peut avoir en tant qu'être humain, mais qui parfois dépassent les limites planétaires. Et donc, on avait envie d'explorer cette sobriété et puis pas se cantonner à la notion d'écologie ou d'impact environnemental, mais aussi aborder la question du lien. Le lien à soi, le lien aux autres, le lien à la nature, qui pour nous, finalement est la principale source de plaisir dans la vie. Mmh. C'est pas le fait d'avoir une plus grande télé qui nous rend heureux, c'est un échange avec son conjoint, c'est le plaisir de jouer avec ses enfants, le plaisir d'une randonnée. Et donc, on a voulu explorer avec ces familles cet aspect-là, et effectivement, là, pour le coup, on est sur une approche assez innovante. Mmh.
Souvent, quand on parle de sobriété, et on pose la question à une des participantes dans le reportage qu'on a entendu tout à l'heure, comment on peut arriver à être heureux en étant sobre ? Parce que la sobriété aujourd'hui, dans nos sociétés un peu ultra-consommatrices, ben, c'est de se priver. Comment vous voyez les choses par rapport à ces deux mots qui viennent s'entrechoquer un peu dans nos perceptions, sobriété ? Donc réduire un petit peu sa consommation ou la voir autrement, et puis le fait d'être heureux.
Alors oui, on savait qu'en allant vers le grand public avec ce mot-là, on risquait peut-être d'avoir une réaction de recul. Et c'est pour ça qu'on a plutôt baptisé le programme quand on est allé sur la voie publique en toute simplicité. Et donc, pour autant, c'est bien de sobriété qu'on a parlé. Alors, une sobriété choisie, en pleine conscience, hein, pas une sobriété subie. Et donc, j'entends parfaitement que dans une part de la population, n'accède pas aux besoins vitaux. Donc, ce n'est pas cette partie-là de la population qui galère, qui est en difficulté économique qu'on s'adresse. Nous, dans la démarche, on s'adresse aux gens qui sont dans des niveaux de vie suffisants, voire des fois dans des niveaux de vie en pleine ébriété. C'est à eux qu'on s'adresse pour leur dire...
Calmez-vous.
Pensez, arrêtez-vous, prenez le temps, ralentissez et regardez où vous êtes.
Quand on veut plus généralement changer les comportements des citoyens, alors on reparlera de cette notion tout à l'heure de peut-être de classe aussi, d'écologie populaire à qui on s'adresse, mais quand on veut plus généralement tenter, et c'est un peu ce que vous essayez de faire à Cohérence, les comportements des citoyens dans une transition environnementale plus vertueuse, ou sociale également, quels sont pour vous les ingrédients de base qu'il faut appliquer pour réussir justement à les impliquer ?
Eh bien, les ingrédients, ils sont assez simples. D'abord, c'est la convivialité, c'est le plaisir d'être ensemble. Le second ingrédient, c'est l'absence de jugement. Si moi, en tant qu'animateur, accompagnateur ou en tant que participant, je juge l'autre, on va créer un blocage, un frein.
Ouais, ne pas le culpabiliser.
Ne pas le culpabiliser. Chacun chemine. L'important, comme le dit le proverbe chinois, c'est pas d'être lent, mais c'est d'être immobile. Et donc, il faut se mettre en mouvement. Et donc, ça, c'est le deuxième ingrédient. Et le troisième, c'est le collectif, en fait. Parce qu'on est des êtres sociaux. Homo sapiens, c'est un être qui vit en groupe. Et les autres nous inspirent. Et on s'inspire des autres. Et c'est la principale recette qu'on utilise dans ces démarches-là.
Alors pour autant, Julien, on le dit dans le reportage, on est plutôt sur des participants qui sont déjà un peu convaincus par ces histoires d'écologie, de transition environnementale. Mais Marcella, je crois, dans le reportage, parle à un moment donné d'éducation populaire. Et quand on parle d'éducation populaire, on parle peut-être aussi d'éducation de personnes qui n'ont pas forcément les moyens, qui sont des classes plus modestes. Mais alors comment on va chercher justement des personnes qui sont issues des classes plus populaires, plus modestes ? On fait comment dans ces cas-là ? Parce qu'on s'adresse là qu'à une partie de la population finalement.
L'idée évidemment, c'est de s'adresser au plus grand nombre. Mais effectivement, les solutions doivent être adaptées à la situation des gens. Et à Cohérence, on a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de travailler dans le cadre de rénovation thermique de logements sociaux, donc au contact de populations qui ont peut-être moins les moyens que le reste des habitants. Et en fait, ils sont déjà parfois dans la sobriété. Alors, elle n'est pas toujours choisie, mais on peut amener aussi un changement de regard. Ça peut être un changement de regard sur le fait que, ben oui, quand on n'a pas de voiture, parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter une voiture et qu'on utilise les transports en commun, c'est une démarche vertueuse.
Là, on parle de voitures hybrides dans le cas de Florence. Le prix des voitures hybrides, c'est un peu difficile.
Par exemple. Alors, c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix d'explorer un défi sobriété heureuse. C'est parce que dans d'autres types de défis, on était sur des modifications de pratiques qui peuvent être assez profonde, puissante, mais on ne questionnait pas cette notion du besoin et de l'envie. Et en fait, dans la sobriété, c'est ça. On questionne ses besoins et ses envies, et parfois, on se rend compte que c'est du superflu. Et on peut finalement, parce que cette notion de bien, c'est aussi des marqueurs sociaux, c'est un référentiel qu'on peut réinterroger. Et la sobriété, finalement, elle reste quand même accessible au plus grand nombre, parce que effectivement, si on passe d'une voiture thermique à une voiture hybride, on n'est pas dans la sobriété. On sera peut-être dans l'efficience écologique ou les énergies renouvelables. Mais la sobriété, c'est finalement ne pas prendre sa voiture pour prendre un vélo. Et un vélo mécanique, on en trouve idéalement sur le Bon Coin ou dans une ressourcerie pour 50-80 euros. Et ça reste accessible à tout le monde. Autre exemple, quand on décide de réduire sa consommation de produits carnés, on fait des économies parce qu'on va végétaliser son assiette et que finalement, c'est comme ça qu'on pourra s'offrir des végétaux plutôt bio. Voilà, parce que c'est aussi, ça nous fait du bien pour notre santé et en plus à la planète. Donc la sobriété heureuse, c'est pas forcément plus cher, ça s'adresse à un maximum de gens, même si c'est vrai que ceux qui doivent s'en préoccuper en premier, c'est évidemment ceux qui ont un impact carbone le plus important.
Et oui, parce qu'il faut rappeler que les classes populaires, c'est pas elles qui dépensent le plus de carbone, d'énergie. C'est plutôt ceux qui sont plus aisés et qui consomment beaucoup.
On est d'accord. Et c'est pas ces classes populaires qu'il faut culpabiliser.
Et stigmatiser,
mais bien au contraire, des gens qui sont dans cette ébriété, cette surconsommation.
Julien Bonavène, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du réseau Cohérence, réseau breton d'associations et de citoyens qui défendent l'environnement. Merci beaucoup, Julien.
Merci.
Vous venez d'écouter Terrain commun, récit d'écologie populaire.
Une collection de reportages produite par la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne.
Et la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, dans le cadre du projet Ondes Durables.
Ces reportages sont à retrouver sur ondes-durables.fr. Ondes Durables est un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts.